Voilà, merci. Donc l'objectif de cette communication, c'est alors à partir d'une étude de cas discuter d'un certain nombre de tensions, d'enjeux, de conflits également autour d'un projet de création du jardin botanique. Alors je remonte un petit peu, très légèrement, avant 1890, puisque effectivement, en retravaillant cette communication, je me suis rendu compte qu'en réalité, pour comprendre d'où vient ce jardin botanique qui est géré par une société botanique, une jeune société botanique qui est créée tardivement dans le siècle, il faut remonter tout à fait au début du 19e siècle. Puisque, à l'origine, en fait, l'histoire de ce jardin botanique est, je dirais, directement liée à la création des écoles centrales qui ont été effectivement créées par décret le 25 février 1795, donc des établissements d'enseignement qui remplacent dans les départements et sous l'autorité de ces départements les collèges d'ancien régime. Donc c'est un petit peu lié à l'histoire révolutionnaire et immédiatement post-révolutionnaire. Donc, parmi les différents éléments qui caractérisent les écoles centrales, il y en a effectivement ici qui m'intéressent en particulier, le jardin botanique. Alors, en histoire naturelle, les écoles devaient disposer d'un cabinet d'histoire naturelle, d'un cabinet de physique et chimie, et puis donc devaient effectivement posséder un jardin botanique. Alors, à Niort, en 1798, autorisation est donnée par l'administration du département des Deux-Sèvres donc d'établir un jardin botanique donc destiné à l'école centrale qui se trouve juste à côté de ce jardin botanique. Alors, j'ai pris ici effectivement pour j'allais dire pour montrer que ce jardin botanique est vraiment créé au cœur, dans le cœur historique de la ville de Niort, puisque là sur ce document du 18e siècle, donc là on a effectivement ici le terrain qui va être consacré à ce jardin botanique, donc qui se trouve dans l'enceinte du château de Niort, que les Niortais appellent le donjon, puisque effectivement c'est un bâtiment qui était en partie détruit. Donc à partir du 9e siècle, 10e siècle, où l'enceinte est construite, et le château qui est construit au 12e siècle, on a effectivement un afflux de population autour de cette construction. Et on est donc, pour revenir encore sur cette expression, sur le cœur historique de la ville de Niort. Et donc ce donjon va subir un certain nombre va avoir un certain nombre de malheurs, si je puis dire. Il va être victime d'un écroulement partiel au XVIIIe siècle. Il est sauvé de la démolition uniquement parce qu'on le reconvertit en prison. Et il est acheté par la ville en 1791 et puis devient propriété du département, pardon. Alors, le fait que ce soit une prison n'est pas innocent dans l'histoire directe de l'attribution de ce terrain à un jardin botanique. Alors, en gros, il fait 200 mètres, voilà, au début du 19e siècle, donc il fait à peu près 200 mètres de long sur une soixantaine de mètres de large. Bon, ça fait en gros 15 000 mètres carrés. C'est pas une surface énorme. Donc, il donne juste sur la Sèvre niortaise. Et donc, le donjon se trouve là. Donc, on est vraiment juste à côté. Une partie, d'ailleurs, des fossés du donjon vont être utilisés. On est bien, donc, à l'intérieur des fortifications du mur d'enceinte du Moyen-Âge. Alors, pourquoi ce jardin à cet endroit-là? Ben, c'est d'une certaine façon, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Et le député en 1800, 1802, qui fait un rapport sur ce jardin, précise ce terrain ne pouvait pas être affecté dans des mains qui auraient pu favoriser les évasions. Donc il eût été périlleux d'avoir des maisons d'habitation à proximité du donjon pour cette raison-là, une question de sécurité. Et alors, pour valoriser la nouvelle destination qui est donnée à ce terrain, le député, un certain Morand, ajoute « C'est aux sciences naturelles que nous devons nos plus précieuses ressources, l'aliment de nos arts et les soutiens de la vie humaine. » Et donc, il précise encore, c'est à la botanique en particulier que le sol de la République est redevable de la plus grande partie des productions qui l'enrichissent. Donc évidemment, il y a un intérêt économique qui a été souligné à d'autres moments de la journée. L'économie végétale, c'est l'expression qui est employée. Donc ça, c'est une des fonctions premières de ce jardin botanique, valoriser effectivement ce qui relève de l'économie végétale, mais également procurer des récréations instructives, donc à la fois loisirs et à la fois instruction, alors pour les instituteurs et pour leurs élèves. Et après, donc, il n'y a pas, vous allez le voir, uniquement des intentions éducatives au sens scientifique du terme, puisque toujours dans ce rapport de l'ancêtre de la République, le député précise, je ne sais pas pourquoi je garde ça, à propos à destination des instituteurs, il dit à vos élèves, enseignez-leur la botanique, car cet enseignement est antidote, j'allais dire, aux conversations frivoles ou licencieuses, donc toute la dimension morale, et cela permet aux élèves de rendre leurs mœurs douces comme la nature. Donc la nature est douce, une vision un peu édénique de la nature. Donc il y a effectivement la dimension, donc l'économie végétale, l'intérêt, on le voit ici par rapport aux essais de culture, aux plantations d'arbres, à la culture de l'angélique, etc. Et puis, donc, l'enseignement, et voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait moral. Alors, c'est relativement un lieu commun pendant tout le 19e siècle, c'est-à-dire dans les bulletins des sociétés savantes, la botanique en particulier est considérée comme la plus aimable des sciences, donc une science qui a des vertus morales, qui est accessible à tous, et qui est même une activité convenable pour les jeunes filles, c'est vous dire. Voilà. Et donc, effectivement, dans la France rurale du 19e siècle, et dans les Deux-Sèvres en particulier, la botanique, je cite toujours le député, développe un goût salutaire, donc un goût salutaire qui fait aimer la campagne et l'agriculture. Donc, cette mission, donc, de faire aimer la campagne, m'a donné effectivement l'idée de cette image un peu facile, j'allais dire. Mais finalement, effectivement, qu'est-ce qu'ils font pour faire aimer la campagne aux citadins? Ils amènent la campagne à la ville, c'est-à-dire au cœur de la ville, par le biais d'un certain nombre de cultures. Alors, la composition de ce jardin va être impulsée par le citoyen Joseau, qui est professeur d'histoire naturelle à l'école centrale, professeur d'histoire naturelle et de chimie, qui est membre de la Société libre d'agriculture des Deux-Sèvres. Alors, quelle est qualificatif de libre signifie qu'effectivement ce sont ces nouvelles sociétés savantes qui se reconstituent après la Révolution et qui effectivement ne sont plus liées aux contraintes qui étaient celles de l'académie des académies d'Ancien Régime. Donc la Société libre d'agriculture est mobilisée par le professeur Joseau, qui est lui-même membre très actif de cette société, et qui lance un appel aux amateurs de botanique pour l'aider à créer le jardin, donc amener effectivement des graines, des plantes, etc., pour composer ce jardin-là. Et donc, comme vous le voyez, le terrain comprend alors un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tous issus de la flore locale. Il y a une orangerie, donc, qui est dans la chapelle du donjon. Les anciens fossés du château accueillent des plantes médicinales, une pépinière d'arbres fruitiers, une école de botanique. Alors l'école de botanique est en haut ici, j'y reviendrai. On a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui des écoles de botanique. Souvent on identifie le jardin botanique à l'école de botanique, comme si c'était effectivement perçu comme synonyme. Donc il y a un labyrinthe avec des plantes. Alors des plantes de bosquet, mais de la flore locale, hein, des arbustes, donc des espèces ligneuses, mais qui font partie de la flore locale. À gauche de l'entrée, on a des arbres du pays qui sont disposés en quinconce, nous dit-on. Une pépinière pour la culture de l'angélique de Niort. Donc là, il y a toute une histoire locale sur la provenance de l'angélique et pourquoi elle est cultivée sur Niort. Et puis, un espace réservé aux cultures locales des céréales, des plantes potagères, oléifères, industrielles, un espace d'acclimatation de plantes exotiques, et puis, alors, à gauche, des plantations d'arbres dites à la manière anglaise, puisque ce sont des plantations irrégulières. Ce jardin est pas mal situé, donc l'école centrale, vous l'avez repéré, est en bas. Donc les élèves de l'école centrale, il y a une centaine d'élèves qui sont en internat, peuvent effectivement travailler sur le jardin, mais il y a également une école de natation et puis des bains chauds qui sont aménagés sur les bords de la Sèvre niortaise. Alors, ce jardin va avoir une existence de courte durée, puisqu'il y a d'autres enjeux qui vont arriver, si je puis dire. Alors, déjà, il y a la suppression des écoles centrales, hein, qui est par une loi du 1er mai 1802. Hein, ils sont remplacés par d'autres structures d'enseignement, les lycées d'État, les écoles secondaires, ce qui correspondrait au collège. En tout cas, suppression des école centrale, et les jardins botaniques, du coup, sont à la charge des communes. Et vous allez comprendre vite qu'à Niort, la charge n'est pas tellement appréciée de la part des élus de la commune. Donc, le jardin va être laissé plus ou moins à l'abandon, et comme dans beaucoup d'autres villes, effectivement, il va y avoir des plans d'alignement, des nouvelles constructions, et à partir de 1921, on cède le terrain pour la construction de la préfecture, qui va être inaugurée en 1832, et on va avoir... donc ici à gauche, un certain nombre de... On voit la préfecture, il y a des rues qui sont percées. Et alors, juste en rive, la construction du palais de justice et quelques maisons d'habitation. Alors, la population de Niort s'agrandit, même si c'est pas fulgurant par rapport à d'autres villes. En gros, entre 1800 et 1840, la ville passe de 11 000 à 18 000 habitants. Donc une croissance assez modeste par rapport à d'autres villes, mais quand même. Et le jardin va être déplacé plus au nord, le long de la Sèvre. Il va donc être excentré. Alors, à vol d'oiseau, on est à 800 mètres. Mais si on regarde par rapport aux limites de la ville au début du 19e siècle, on est hors les limites de la ville. Alors, ce jardin des plantes existe toujours, hein, sur le plan que vous avez à gauche. Du coup, effectivement, le jardin du donjon est plus ou moins abandonné. Alors, il n'y a plus les problèmes de sécurité, si je puis dire, puisque comme la prison a été construite un peu à l'extérieur, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus de risque d'évasion si effectivement il y avait des habitants qui construisaient, ce qui est le cas, hein, des constructions un petit peu plus proches. Enfin, il n'y a plus du tout ces enjeux-là. Et pour revenir donc là, non, c'est pas ça. Si je voulais revenir en arrière, pardon. Voilà, le terrain qui va rester en friche, en fait, se trouve là, hein, puisqu'il était mangé, j'allais dire, en grande partie par la préfecture et d'autres bâtiments. Donc, juste autour du donjon est là. Donc, un terrain qui va rester en friche. Mais, alors, le réseau local des sociétés savantes essaie effectivement de reconstituer sur le terrain qui subsiste une partie, en tout cas, du jardin historique de Niort, en particulier la société d'agriculture, la société d'arboriculture et d'horticulture. Donc, différents projets sont proposés entre les années 40 et les années 80. Le dernier projet est de 1876, mais effectivement, il faut de l'argent. Il faut 22 000 francs, donc peu importe en valeur absolue, mais je comparerai avec un autre exemple tout à l'heure. Donc effectivement, la municipalité ne veut pas consacrer l'argent qui est nécessaire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les sociétés savantes tiennent tant à avoir un jardin botanique? Alors, je dirais que ça fait partie, pour le dire de façon simple, de la panoplie de la société savante qui veut affirmer une certaine légitimité scientifique, hein, se poser en tant que de membre érudit qui valorise effectivement un certain nombre de richesses, puisque dans une société au XIXe siècle, même si on s'appelle société d'agriculture, on ne fait pas que de l'agriculture, on pratique aussi la poésie, les belles lettres, l'archéologie, enfin, etc. Derrière ces intitulés, en tout cas avant les années 50 du XIXe siècle, il y a souvent, quand on consulte les bulletins, de nombreux sujets qui sont abordés. Donc, le jardin, j'allais dire, c'est le signe visible, et là, en l'occurrence, au cœur d'une ville, du caractère érudit et de l'activité scientifique des sociétés savantes. Mais il y a d'autres indicateurs, j'allais dire. Il y a la gestion ou la possession d'un musée. Ça, c'est un autre signe visible de cette érudition, la possession d'une bibliothèque. Donc, le jardin botanique en fait partie. Alors, plus rarement jardin zoologique, parce que c'est beaucoup plus difficile sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique à maintenir. J'ai vu qu'il y a une étude qui avait été faite sur un jardin zoologique à Marseille, hein, qui était piloté, si je puis dire, par la Société zoologique de Marseille, mais c'est plus rare. Quelquefois, des stations de recherche, des stations de biologie, marine. Moi, j'ai trouvé un exemple qui était la station d'Arcachon, qui, à l'origine, avant d'être attachée à l'université, a été gérée par une société zoologique locale, et la publication de bulletins, évidemment, les bulletins qui sont ou les mémoires qui sont généralement annuels, et puis la proposition de cours ou de conférences. Donc, on a tout un, pour reprendre cette expression, toute une panoplie, j'allais dire, d'activités qui rendent visible ou qui légitiment, en tout cas aux yeux du monde savant local, leur caractère scientifique ou leur caractère érudit. Alors, autre élément, alors j'ai essayé de regarder dans les sources locales si le monde savant était le seul à faire pression sur les autorités municipales pour créer ce jardin-là. Il semble que oui. Je pense que les Niortais, d'une façon générale, n'appuyaient pas cette demande, effectivement, des érudits. C'était finalement, on pourrait dire, une élite lettrée ou de notables qui voulaient effectivement reconstituer ce jardin, pas que pour des raisons scientifiques, une fois encore aussi pour des raisons historiques, pour des raisons patrimoniales, presque, d'une certaine façon. Alors, avec les hypothèses que je vais vous exposer, finalement, c'est à une jeune société botanique, donc la Société botanique des Deux-Sèvres, qui est fondée le 22 novembre 1888, donc assez tardive dans ce mouvement de création de sociétés spécialisées qui caractérise la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, c'est cette société botanique qui va faire revivre le jardin en centre-ville, sur ce qui reste des terrains disponibles. D'ailleurs, la création du jardin est inscrite dans les statuts de la société, et les autorités communales vont concéder pour 18 ans, donc c'est une concession de 18 ans, ce terrain qui subsiste et qui est inauguré le 15 juin 1890. Alors, j'ai regardé au niveau des différents changements de les élections, etc. Il n'y a rien de saillant au niveau couleur politique locale qui pourrait expliquer ce changement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont peut-être plus triviales que ça. Donc, la première, je l'ai évoquée, les grands travaux sont terminés à Niort. En tout cas, dans cette partie de Niort, hein, le plan est terminé, les constructions, la préfecture, etc., c'est fait. Et il ne reste finalement que ce terrain en friche, on dirait une dent creuse maintenant, je pense, autour du donjon, dont personne ne veut. Les prisonniers sont partis en 1853, je l'ai dit. Donc, il y a plus de tension immobilière, j'allais dire, sur ce terrain, sur cette friche. Alors, les fondateurs de la Société botanique ont d'autres arguments. C'est qu'ils ne demandent pas d'argent. Et ça, apparemment, pour la commune, c'est assez intéressant, puisque le futur président de la société, dans l'été qui a précédé la fondation de la société, eh bien, il a commencé à remettre en état le terrain bénévolement avec un certain nombre de collègues botanistes. Donc, ils ont retroussé leurs manches et puis ils ont travaillé sur le jardin. Alors, il y a une concession ou deux concessions, on allait dire, que fait la commune. Elle met à la disposition de la société un gardien et un jardinier de la ville, mais aux frais de la société. Alors le gardien, attention, c'est simplement, il a une porte et il donne les clés. Il est garant simplement de qui vient pas, etc. Alors, je n'ai pas trouvé exactement combien d'heures le jardinier de la ville devait consacrer par jour ou par semaine à l'entretien du jardin, mais en tout cas, c'est effectivement un temps partiel. Et de toute façon, il était payé par la société. Et lui, il avait un petit coin dans lequel il pouvait faire ses propres légumes. Donc, c'était un arrangement local qui ne coûtait pas grand-chose. Et alors, la municipalité impose malgré tout une contrainte, c'est que le jardin soit ouvert tous les dimanches après-midi au public niortais. Voilà, donc y a un petit accord comme ça qui ne coûte rien ou pas grand-chose à la municipalité. Et en plus, on a là une société, alors j'allais dire c'est vraiment l'archétype, cette société des nouvelles sociétés qui se créent dans les années 80 du 19e siècle, avec un changement de sociologie. C'est-à-dire que là, c'est une société qui est dominée, je vais dire, par des enseignants, en particulier des instituteurs. Énormément d'instituteurs, les premières institutrices qui viennent finalement dans ces sociétés naturalistes chercher un complément de formation. Dans leur formation, dans leur culture naturaliste. Et donc, on a effectivement ici un autre intérêt, une autre dynamique, je dirais. Donc, traditionnellement, effectivement, la population traditionnelle des sociétés savantes est toujours là, des notables, je vais le dire entre guillemets, pharmaciens, médecins, on trouve des notaires, des avocats, etc., des hommes de loi, les élus, mais de fait, ils sont forcément membres d'une société. Et donc, il y a toute cette population de... Alors, bon, souvent, on a dit que les instituteurs de la Troisième République, ou à partir des années 80, étaient un petit peu des semi-notables. Mais effectivement, ils ont une appétence en termes de formation, et en l'occurrence ici, naturaliste. Donc, on peut dire aussi que cette société savante va faire rayonner la science niortaise sur l'ensemble de la région, et ça intéresse aussi la commune, puisque cette société qui a 150 membres en 1889 en a 600 en 1905, et on va dire du début du 20e siècle jusqu'à la guerre 14, elle oscille toujours à 600-650, et elle recrute dans les départements du centre-ouest, on va dire, dans la Vienne, les Deux-Sèvres, bien sûr, mais la Charente inférieure, etc., jusque dans l'Indre. Et je voulais faire, mais très rapidement, parce que je le développerai plus dans la communication écrite, peut-être le contrepoint avec un autre jardin qui est créé, lui, dans les années 40, là aussi au moment d'une pression immobilière, qui est le jardin botanique de Tours. Pour le dire de façon très beaucoup plus rapide, et donc une fois encore, j'allais dire mon argumentaire sera un peu plus développé dans l'écrit. Le contexte est différent dans la mesure où à Tours, alors c'est une ville un petit peu plus grande. Niort, on est autour des années 40, on est à 18 000 habitants. Tours, on est à 25 000, 30 000. Donc il y a un petit peu plus de moyens. Et le jardin botanique, alors va être impulsé là aussi par des membres actifs de sociétés savantes locales, mais et en particulier également quelqu'un qui est, il s'appelle Jean-Antime Margueron, qui est pharmacien et qui est administrateur de l'hospice et qui contribue effectivement aussi au projet de création de l'école de pharmacie et l'école de médecine. Donc dans les années 40, on a, alors dans un terrain qui était un marécage qualifié de cloaque infecte, il va y avoir un travail d'assainissement, de création du jardin botanique. Alors ce cloaque infect qui était mal supporté par les Tourangeaux, qui était pris entre aussi, ce cloaque et puis les odeurs pestilentielles des tanneries et puis d'un abattoir qui était situé le long de la Loire. Il y a la rue des Tanneurs qui est là. On parle de la fac des Tanneurs sur le long de la Loire. Donc il y a une sensibilité, je pense, des Tourangeaux à ces problématiques d'hygiénisme et d'assainissement de ce cloaque. Il y a le projet donc de création d'une école de médecine et d'une école de pharmacie, et donc on crée ici un terrain utile pour l'enseignement. Les étudiants en médecine et en pharmacie ont juste à traverser la route pour aller effectivement travailler sur le jardin. Et là où on voit qu'il y a peut-être un contexte, et sûrement un contexte différent, c'est qu'une souscription est lancée auprès des administrés et il y a une réponse assez forte de la part des Tourangeaux qui sont très motivés pour avoir effectivement cet espace vert, ce terrain, et qui répondent à la souscription. Alors, je compare aux 22 000 francs que la municipalité de Niort ne voulait pas débourser. Là, on débourse 70 000 francs. Et on dégage une allocation annuelle, alors de 500 francs, qui en 1842, et qui passe à 1000 francs en 1844. Alors, en valeur de l'époque, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai pas réussi à trouver vraiment quelque chose qui me permette de dire si c'était une grosse ou une petite somme. Mais simplement, le fait que la municipalité double l'allocation, c'est le signe d'une volonté qui est un petit peu différente. Alors, il y a d'autres choses. Il y a l'arrivée du chemin de fer. On l'a évoqué tout à l'heure pour un autre contexte, le tourisme, puisque les Parisiens viennent en chemin de fer à Tours pour effectivement une dimension touristique. Donc assainir la ville de ce cloaque, c'est peut-être également plus intéressant. Et alors, j'avais dit tout à l'heure que je reviendrais sur, ce sera ma dernière partie, sur une partie particulière du jardin botanique. Oui, ça c'est c'est resté très minéral. Donc ça c'est le donjon de Niort actuellement. Donc il n'y a plus du tout de jardin. Il y a très voilà. Et donc sur cette partie du jardin botanique, on appelle l'école de botanique. Alors j'ai mis ici en parallèle donc l'école de botanique dans ce jardin de Niort en 1800. Et alors c'est un panneau qui donne le plan alors actuel du jardin botanique de la faculté de pharmacie d'Angers. C'est intéressant puisque c'est un jardin qui a conservé un peu sa structure originelle. Alors c'est assez amusant de voir que la géométrie est exactement la même pour cette école de botanique de Niort en 1800 et pour l'école de botanique de ce jardin d'Angers. Et alors, en réalité, cette géométrie et cette organisation des jardins, elle est également, j'allais dire, normalisée au travers d'un certain nombre d'instructions, au travers d'un certain nombre de traités sur la composition des jardins. Il y en a qui sont, qui sont assez célèbres et fort consultés à l'époque. Il y a un certain Odo qui a écrit un traité de la composition et de l'ornement des jardins. Donc la première édition est de 1818, une sixième édition en 1859. C'est un vrai succès, hein, un vrai succès de librairie. Et il y a eu d'autres éditions postérieures. Et donc, je parlais de géométrie à l'instant. Donc Odo explique que pour réaliser une école de botanique, il explique comment tracer des lignes droites, comment tracer des perpendiculaires et réaliser des cercles parfaits. Donc on est vraiment sur une géométrie tout à fait stricte. Et au début, en tout cas, les visées esthétiques ne sont pas premières, loin de là. Et on considère effectivement le jardin botanique comme un lieu où les plantes sont classées méthodiquement et les différentes parties qui composent cette école donc, ne peuvent être que régulières dans leur forme. Alors, on va même mobiliser, mais ça c'est intéressant parce qu'on mobilise à la fois des savoirs issus d'un chimiste et le côté esthétique. On va emprunter au chimiste Eugène Chevreul sa loi sur le contraste des couleurs pour l'appliquer à l'organisation des parterres. Donc pour les plantes à fleurs, par exemple, on va mélanger les couleurs primaires, les trois couleurs fondamentales, ou alors on va associer les couleurs complémentaires, donc sans perdre la fonction école ni la géométrie du parterre, on va donner un aspect esthétique, alors entre guillemets l'aspect esthétique qui ne nuit pas à la fonction scientifique en associant ces couleurs de ces façons-là. Et alors ce qui se joue notamment dans les jardins-écoles, c'est, on a parlé tout à l'heure du problème taxonomique, de la question de la nomenclature, donc à quel système ou à quelle méthode de classification se référer. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent entre le 18e et le 19e siècle. Donc le système de Linné qui est proposé à la fin du 18e siècle est un système qui est beaucoup utilisé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'étiquetage va être créé en fonction du système de Linné, le découpage dans les différents niveaux taxonomiques. Mais au moment de la Révolution française et juste après, d'autres propositions sont faites. Alors souvent, dans la terminologie utilisée, on parle de système quand on se réfère à des nomenclatures qui s'appuient sur des critères arbitraires. Le système de Linné est tout à fait arbitraire. Qu'est-ce qui est intéressant dans le système de Linné, c'est qu'il est facile à utiliser. Il suffit d'avoir des yeux, éventuellement une loupe, et l'observation de l'organisation de la fleur. Je parle uniquement des plantes à fleurs ici. On parle du système sexuel de Linné, c'est-à-dire c'est basé sur les caractères sexuels, les organes sexuels de la plante, et c'est tout à fait arbitraire par rapport à ce qu'on va appeler les classifications généalogiques. Mais en tout cas, c'est un système qui est relativement facile ou pédagogique pour des étudiants ou pour des amateurs. Mais donc, émergent des méthodes, donc on parle de classification naturelle qui, elle, essaie de rendre compte de la généalogie des liens. Donc, on parle de famille de plantes. Donc derrière le mot famille, il y a la question effectivement des liens, des filiations. Et donc il y a Antoine Laurent de Jussieu, c'est en 1789. Il y a le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle et son fils Alphonse qui vont proposer effectivement des méthodes. Mais alors le problème, c'est qu'il va y avoir une multiplication des méthodes. Et donc chaque jardin peut faire son choix et éventuellement revenir à des méthodes différentes. Alors il y a des propositions qui sont faites. Il y a un congrès scientifique qui se tient à Poitiers en 1834. Alors au lieu de rencontre des sociétés savantes de l'époque et à l'occasion d'une communication, il y a une maquette de jardin qui est présentée avec un système de planches, de fiches, avec des étiquettes de couleurs différentes, ce qui permet effectivement effectivement au directeur du jardin de faire son choix selon comment on tourne les étiquettes. On va prendre le système de Linné, ou on va prendre le système de Jussieu, ou celui de Candolle. Et puis, effectivement, on va se servir de ce modèle. Tout à l'heure, il était question des plants qui étaient utilisés pour ensuite aller sur le terrain et reconnaître les plantes. Donc là, on a effectivement différents types de propositions qui sont faites. Alors, quelquefois, en tout cas, c'est le cas à Poitiers et c'est également le cas à Bordeaux, où on a effectivement un mouvement linnéen qui est très fort et qui est incarné par le directeur du jardin botanique de Bordeaux, un certain Jean-François Latérade, qui lui voue un culte à Linné, et il y a beaucoup de sociétés linnéennes qui se créent en France, dans les années 20 en particulier. Et donc, il y a souvent, après avoir testé les méthodes récentes, actuelles, pour l'époque, on revient au système de Linné parce que les étudiants nagent complètement, ils n'y comprennent rien, c'est trop compliqué pour eux. Et donc, dans la mesure où la fonction pédagogique des écoles est constamment mise en avant, c'est un peu contre-productif d'organiser l'école avec des classifications qui sont difficiles à utiliser. Donc ça, c'est le premier type d'approche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sous l'administration de la Société botanique des Deux-Sèvres, donc à partir de 1890, il y a une autre option qui est prise et que l'on retrouve dans un certain nombre d'autres jardins, là aussi sous l'impulsion des sociétés savantes qui les administrent, c'est ce que je pourrais appeler, mais l'expression école de botanique, c'est une expression effectivement qu'on trouve dans la littérature du temps. Je parlerais plutôt de jardin géobotanique. C'est-à-dire effectivement, l'expression qui est utilisée dans certains ouvrages et qui commence à remporter pas mal de succès chez les botanistes, c'est l'expression de géographie botanique. Donc on s'appuie effectivement sur les programmes de géographie botanique qui ont été développés depuis le début du 19e siècle, en particulier par Humboldt, mais aussi par d'autres que j'ai cités tout à l'heure, en particulier les deux Candolle, père et fils. Et donc, on veut faire, les administrateurs du jardin de Niort veulent faire de ce jardin, alors non seulement un herbier vivant, mais également un lieu où on peut voir la flore locale de la campagne environnante pour donner à voir aux Niortais les représentants de cette flore. Et les parterres sont organisés par commune, voire par canton. C'est-à-dire qu'on va avoir des parterres dans lesquels on va dire « ça, ce sont les plantes de la commune de Vouillé. Ça, ce sont les plantes de la commune de... » etc. Et donc, ce sont... alors c'est vrai que l'autre jour je prenais l'exemple du plan du métro. Donc effectivement le plan du métro permet de se diriger dans le métro réel, et là effectivement l'amateur qui voit dans ce parterre de telle commune éventuellement une commune qui l'intéresse peut caresser l'espoir de la retrouver effectivement sur la station qui se trouve à la campagne. Donc ça permet effectivement peut-être de faire des allers-retours entre la ville et la campagne. Et donc on a alors la Société botanique ça fait la promotion d'une certaine façon de deux ouvrages floristiques qu'il publie entre la fin des années 90 et le début des années 1900. Le premier, c'est une flore classique qui permet de déterminer les plantes. Et le deuxième s'appelle... description des plantes qui croissent spontanément ou qui sont l'objet d'une culture en grand dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et la deuxième partie s'intitule « Matériaux pour une géographie botanique régionale ». Et donc, dans cette partie-là, j'allais dire le deuxième volet de la flore, on a les indications par commune et accessoirement les découvreurs, puisque les amateurs de la Société botanique passent à la postérité en associant leur nom parce qu'ils ont été les premiers à découvrir telle plante dans telle commune. Alors, ce n'est pas une plante nouvelle pour la France, ce n'est pas forcément une plante nouvelle pour le département, c'est une plante nouvelle pour la commune. Et donc, je reviens sur Bordeaux, avec l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, où on trouve, sous la plume de ce même Jean-François Latérade, voilà, on va aménager le jardin de la ville avec une partie plus ou moins grande de la carte botanico-géographique. Ce sera un abrégé, un sommaire de la map monde végétale. Donc c'est une carte géographique vivante constituée effectivement par les plantes qui se trouvent là. On trouve les mêmes propos avec d'autres termes dans les bulletins de la Société Sciences Naturelles de Béziers, qui projette de rendre visible tout ce que l'on peut voir tous les jours dans notre région sous nos climats. Même chose pour l'Académie de Clermont-Ferrand. Je passe. Enfin, il y a suffisamment d'indicateurs, je dirais, pour dire qu'on a une espèce de mouvement qui consiste à passer d'une représentation purement systématique à une représentation qui est conforme à la géographie botanique locale. Et pour terminer, le troisième élément, donc j'ai dit systématique, géobotanique, le troisième élément, alors qui est très tardif à partir des années 1895 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est d'intégrer la dimension écologique, c'est-à-dire non seulement de rendre visible au cœur de la ville, en ce qui concerne Niort, les plantes des campagnes, mais également de rendre compte de la manière dont les plantes se regroupent en fonction du milieu. Alors, je prends un autre exemple qui est celui de Clermont-Ferrand, où il propose de regrouper les plantes caractéristiques. Alors, cette expression de plantes caractéristiques n'est pas neutre, on va le voir dans un instant. Et porté, j'allais dire, par la vogue des jardins alpins. Il y a eu un premier congrès des jardins alpins. Il y a un engouement pour les jardins alpins au sein des sociétés savantes qui caressent l'espoir de pouvoir créer des jardins alpins en plaine. Donc, c'est assez intéressant. Alors, comment faire ? Ben, il faut créer ce qu'on appelle un jardin biologique. On trouve ça dans les lignes du mémoire de cette société de Bordeaux. Donc, un véritable jardin biologique, une collection non seulement de plantes alpines, mais aussi une collection de conditions alpines. Autrement dit, on veut associer effectivement les caractéristiques d'un biotope avec des plantes. Et alors, en faisant directement allusion du coup à un ouvrage d'Alphonse de Candolle qui parle de groupes physiologiques applicables à la géographie botanique, toujours dans les lignes de ce mémoire de Bordeaux, on parle de groupes physiologiques tout à fait comparables aux associations biologiques que l'on trouve dans la nature. Alors, quand on lit cela en 1901, alors, le problème avec les publications de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de bibliographie. Mais moi, je fais le pari, mais ça, c'est tout à fait gratuit, que effectivement, ils ont lu cet ouvrage d'Alphonse de Candolle qui date de 1874, et peut-être même les premiers travaux qui s'intéressent à ce qu'on appelle la géographie botanique causale, c'est-à-dire comment faire le lien entre les conditions du milieu, les conditions écologiques, ils n'emploient pas le terme d'écologie, et les besoins des plantes. Et donc, comment elles se regroupent, puisque la grosse affaire de la géographie botanique, causale, c'est de comprendre pourquoi les plantes sont associées en communautés distinctes et répétitives, et comment, effectivement, là, c'est l'enjeu de ces jardins alpins, comment recréer ces conditions écologiques Jamais le mot écologie n'est employé dans les bulletins des sociétés savantes que j'ai pu consulter, bien que le terme existe, on l'a rappelé hier, depuis 1866, et qu'il est employé dans un premier traité d'écologie, mais qui est publié en danois, puis en allemand, puis en anglais. Donc je ne suis pas sûr que nos naturalistes locaux aient eu accès à cet ouvrage. Alors c'est un peu porté par cet engouement pour les jardins alpins, ce qui me fait dire effectivement que là, alors on est en train de passer à Niort en particulier, de la campagne à la ville. Donc là on a la campagne aux alentours que l'on rend visible en ligne, mais là on va plus loin que ça dans tous les sens de terme, puisque là c'est la montagne en plaine. La montagne à la ville et en plaine. Donc on a avec effectivement, je dirais, une influence, mais qui n'est pas explicite une fois encore, de programmes de géographie botanique écologique, tels qu'ils sont pratiqués, effectivement, je pensais à ce botaniste danois, mais également de Candolle ou d'autres. Donc je pense que j'étais un petit peu long, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, c'est quand tu parles des cartes botanico-géographiques, là, oui. Ça ressemble terriblement à ce qui finalement est fait dans les conservatoires botaniques à l'heure actuelle. Ils vont dans toutes les communes et ils dressent la liste des espèces et ils refont comme ça des cartographies. Et après, ce dont tu parles ressemble, enfin, c'est les prémices de la phytosociologie, en
absolument.
Fait.
Absolument. Voilà. Parce qu'effectivement, la phytosociologie, c'est 1913, hein, on peut dire symboliquement, c'est fondé par deux articles là. Mais ce qui est en jeu ici, on est sur de la géographie botanique descriptive. On a, la carte du département. On la réduit et le jardin devient un peu un microcosme. Mais on est sur de la corologie. Pur et simple, c'est-à-dire qu'on va rendre compte des aires de distribution des plantes sur un territoire donné. Mais il n'y a pas forcément d'interrogation sur les causes. Et après, effectivement, quand on est sur, sans employer le terme d'écologie, en tout cas, ce qui intéresse beaucoup les botanistes des sociétés savantes, dans la dernière partie du 19e siècle, c'est de comprendre les causes de la distribution des espèces.
On en est toujours là.
Voilà. Même si le terme n'est pas employé, c'est une problématique écologique.
Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. J'ai une question concernant le deuxième jardin hors les murs qui a été... Parce qu'en fait, il y a donc bien deux jardins, finalement. Il y a celui qui s'est reconstitué à côté du donjon. Oui. Et il y a l'autre... Oui. Qui s'est créé hors les murs, et lui, il est devenu quoi ?
Il existe toujours, on l'appelle le jardin des plantes.
Hein, c'est pas un jardin botanique, c'est un jardin.
C'est pas un jardin botanique, alors c'est effectivement, il est organisé vraiment alors sur un coteau qui donne sur la, il est en pente, hein, il donne sur la Sèvre niortaise. Et ça a toujours été un lieu de promenade. Alors, il y a évidemment des plantes, des arbres. Alors, je m'y suis promené un petit peu, mais là, aujourd'hui, il y a des espèces un peu exogènes. Mais j'avoue que j'ai pas travaillé spécifiquement cette partie-là, parce que moi, ce que je voulais voir, moi, j'ai pris la journée au pied de la lettre en disant ce qui m'intéresse, c'est effectivement la nature en ville. Et qu'est-ce que je vais appeler la ville à Niort. Et de fait, si je recontextualise au 19e siècle, le jardin des plantes n'est plus en ville. Il est rejeté au-delà de la périphérie. Alors après, dans les lieux de promenade, enfin, je reviens rapidement sur celui de Tours. Ce qui fait aussi le grand succès dans les années 40 du jardin botanique de Tours, c'est que c'est aussi un jardin zoologique. On introduit des lamas, des kangourous. Les malheureux, apparemment, ils ont un peu souffert. Alors il y a aussi des biches et des cerfs, hein, qui sont introduits dans les années 40. Le magnolia, qui est la grande figue. On vient voir le magnolia. Et puis les cerfs. qui sont construites. Donc, c'est un... Alors, ça correspond plus à l'image du jardin d'empire, du jardin impérial, où effectivement, on va chercher et on essaye d'acclimater, voire naturaliser, donc maintenant j'ai bien compris la différence, des espèces exotiques. Mmh. Ce qui n'est pas le cas à Niort, où là, bon, il y a l'orangerie, mais toutes les espèces sont des espèces locales, ou cultivées, ou spontanées, et locales avec intérêt agricole ou intérêt industriel.
Merci.